France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, je vous invite aujourd'hui à partager une heure avec le pianiste et pédagogue Pierre Barbizet dans une archive de 1988. Au micro de Claude Maupomé, dans un entretien sous-titré « Le retour à Rameau », Pierre Barbizet nous parle avec une jovialité réjouissante de la musique pour piano, la musique qu'il aime, celle qui le fait pleurer et celle qui le fait réfléchir. Le premier volet qui va suivre débute par Le Tourbillon, une des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier que Pierre Barbizet avait enregistrée spécialement pour l'émission.
Rameau, Pierre Barbizet, comment l'entendez-vous ?
C'est difficile à dire. En fait, il y a la musique qui me fait pleurer et la musique qui me fait réfléchir. Mais je les aime toutes. La musique qui me fait pleurer, c'est curieusement un passage de la pastorale de Beethoven. L'enchaînement avec le final, je ne peux pas l'entendre ça sans pleurer, sans sentir la terre mouillée. Cette œuvre la plus classique qu'on puisse imaginer, où tous les parfums se mêlent, il fait soleil, il pleut. C'est vraiment miraculeux, c'est miraculeux. Et puis alors, à une chose aussi différente que la bonne chanson de Fauré, c'est pour moi aussi miraculeux. Fauré me fait pleurer, Beethoven me fait pleurer, Fauré me fait pleurer. Quoique ça ne soit pas toujours le moment. Quand on est très intelligent, c'est pas le moment. Discursivement, c'est pas le moment. Mais je pleure. La
douce
récuée. Moi, je pleure. J'ai larmes. Je pleure peut-être facilement. Et je ne pleure pas. Je pleure par Mozart, bien sûr. Mais je ne pleure pas dans les rondeaux, les musettes. Refrain, couplet, refrain. Ça, je ne pleure pas du tout. Je réfléchis. Et alors, ce retour à Rameau, ça me fait réfléchir. Je ne connais pas très bien ce sujet. Je suis un homme de la forme sonate. Moi, je suis un sonatiste, je suis un beethovenien. Si on peut parler de carrière, je l'ai faite malgré moi, mais je l'ai faite dans la sonate. Et puis, les années venant, et je suis de moins en moins alerte, on me demande des rondeaux. Je ne joue plus que des rondeaux. Alors ça me fait réfléchir, parce que c'est une forme très simple et une écriture très raffinée. Il y a les deux, c'est pas ? Dans une forme très simple et une écriture très raffinée. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, parce que ça part de là. Une œuvre de Rameau, comme le tambourin, c'est la danse du ventre. C'est déjà, c'est barbaresque.
Oui.
C'est bon, c'est parce que l'harmonie de Rameau est très à l'aise, comme valait celle de Debussy. dans le barbaresque, c'est-à-dire l'Andalousie barbaresque, mettons-nous au XXe. C'est aussi... c'est des folklores, c'est des ethnies. Il est impossible d'harmoniser une chanson donnée, même française, avec l'harmonie de Bach, que j'adore. C'est pas la question. Je pleure aussi à Saint-Mathieu, tiens. Saint-Mathieu me fait pleurer, Saint-Jean, le choral me fait pleurer. Abondante larme, mais pour harmoniser une chanson idiote, ça va pas. C'est pas avec l'harmonie de Fafner et de Tristan et de Siegfried que vous harmonisez Hippe Bergère. Ça marche pas. Mais avec l'harmonie de Rabeau, vous harmonisez Hippe Bergère, As-tu vu ma chemise, tout ce que vous voudrez. Voilà ce qui m'a fait réfléchir, parce que dans ces concerts où on me disait, Monsieur Barbizet, vous êtes français.
Jouez-nous de la musique française.
Musique française, musique française. J'étais au Japon pendant un mois et demi, il n'y a pas longtemps. Musique française, musique française. Alors, musique française. Et tous les gosses du pays venaient me jouer de la musique française, musique française. C'est tuant. Parce que c'est difficile à expliquer. Avec la femme sonate, vous vous en sortez toujours. Et puis, c'est long, c'est discursif. Il y a pas seulement discursif, il y a une dialectique. Et moi, je suis très à l'aise là-dedans. Enfin, je suis très à l'aise. Je me sens bien. Et puis, je peux verser mes larmes. Mais, dans le rondo, vous n'avez pas le temps de vous n'avez le temps de rien.
Vous attendrez.
C'est fini. Non, mais c'est fini. Vous avez votre frein, vous avez votre couplet, vous recommencez. Et même l'Alborada est un rondo tout. La musique française, ce sont des rondos, à part ça de Ducasse et encore. Et voilà pourquoi je réfléchis à cette question et je viens chez vous, cher Claude, un peu m'enquérir. Je vais faire un peu de l'introspection.
Vous allez faire de la réflexion en direct, si on peut dire. Bon, alors sur ma demande, dans ce studio de la Maison de Radio France, vous nous avez joué Tourbillon.
C'est encore un rondo.
Qui est la troisième pièce pittoresque de Chabrier, parce que vous savez que je suis une grande admiratrice de vos enregistrements de Chabrier.
Et entre parenthèses, le tourbillon en direct, il fallait le faire. Oui, je m'adresse à tous mes collègues. Là.
Oui, j'ai un peu frémi parce que je n'avais pas choisi la facilité, en effet. Oui, surtout en arrivant de voyage de Marseille, où, je le rappelle, vous êtes le directeur du Conservatoire National de Région.
Mais voilà.
Voilà.
C'est bien commode.
Et alors, pourquoi c'est bien commode?
Ça me laisse dormir tranquille.
Ah bon?
J'ai vécu jusqu'à 40 ans de concerts.
Oui.
Sans subvention, sans CA, sans, vous savez, tout ce qu'il y a maintenant pour les jeunes. Je sais si je m'en réjouis et si je pousse à la roue.
Oui.
Mais enfin, moi, j'ai fait de la boîte de nuit, j'ai fait de tout. Tous les métiers. Et j'ai vécu, j'ai mangé avec le produit des concerts. À une époque, on s'achetait une demi-banane. Quand il n'y avait pas de concert.
Oui, d'ailleurs, là, il faut le dire, à l'heure où nous enregistrons, il est 16h04 et vous n'avez pas déjeuné.
Non, mais ça,
parce que vous êtes arrivé.
Non, mais je suis sûr de très bien dîner ce soir, c'est pas.
Bon, alors, tout va bien. Alors, j'ai vu, à mon grand étonnement, que vous étiez né au Chili.
Oui, c'est très important pour moi.
Bon.
Musicalement, c'est très important.
Oui. Vous y avez vécu longtemps?
Tout le côté sonate, tout ce que je vous raconte sur la sonate, la symphonie, l'oratorio, tout ça, c'est j'ai appris ça au Chili. J'ai appris la musique dans les jupes de ma mère qui dirigeait la Sociedad Bach, où on chantait Bach en espagnol. Cantos de gloria, venga el día, cantos de gloria. Et moi, pour moi, le Bach, c'est en espagnol. Enfin, maintenant, je fais attention à ça. Mais c'est. Alors, j'ai appris la musique avec ré, la, fa, ré, c'est en ré majeur. Et j'ai appris ré majeur. Et puis j'ai appris aussi les chansons polyphoniques françaises que ma mère a fait chanter. Elle a même fait chanter la Ronde de Ravel. N'allez pas au bois d'Oronte, n'allez pas au bois garçon danser à Folleval. Avec les dames de Santiago, c'était quelque chose. Mais ça a été extraordinaire.
Vous êtes resté jusqu'à quel âge?
Ils ont plus de 10 ans. Puis Kleiber est arrivé. Et alors j'ai entendu les Debussy, j'ai entendu la musique contemporaine. Et puis, c'était la crise, mon père a été nommé à Marseille, ma mère m'a immédiatement amené au conservatoire de Marseille, où le directeur lui a demandé, qu'est-ce qu'il fait, il a travaillé le petit. Elle lui a dit, ça et ça, puis Bartok. Bartok, qu'est-ce que c'est que ça, Bartok? Écoutez, c'est musique contemporaine. Mais vous savez, madame, vous êtes dans un pays civilisé, ici. C'est fini, les araucanes, les sauvages, les... Et ça a été pour moi un traumatisme. Les enfants dont les parents divorcent sont traumatisés, mais moi, j'étais traumatisé à Marseille. Arrivé à Marseille, ça a été...
C'est passé, maintenant.
Épouvantable.
C'est passé, maintenant.
Pas tout à fait, parce que j'arrive pas à faire ce que je veux à Marseille. Pour la musique, je fais... Il y a des choses que je n'aurais pas faites.
Bon, on va revenir à ça. Et alors après, vous êtes monté à Paris, comme on dit.
Oui, je suis monté à Paris.
Au conservatoire.
Je suis monté à Paris, alors là, c'est très curieux, parce que j'ai entendu Cortot jouer du Schumann, Chopin. J'ai entendu Horowitz à Marseille jouer le Tchaïkovski. J'avais entendu à Rao avant, tout bébé.
Oui, bien sûr.
Il a 16 ans de plus que moi. Alors, oui. J'avais 4 ans, il en avait 20. Mmh. Et c'est là que j'ai entendu jouer les Liszt. Et puis tout, il jouait tout. Beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Il me pardonnera, mais je me rappelle d'un islamé à Saint-Thoreau dans les années 26 ou 27, 28. À toute pompe, c'était extraordinaire. Et alors aujourd'hui, M. Rao a raison. Il prend des
tempères
plus sages. Oui. Il a raison et il a ses raisons.
Alors après, à Paris, c'est à Paris que vous avez travaillé avec Yves Nat et Marguerite Long.
Ben à Paris, et avec Ferté, il faut pas oublier Ferté, parce que si je fais les ornements en place, je le dois à Ferté. Ferté était élève de Saint-Saëns. Saint-Saëns savait tout et ça nous ramène à Rameau d'ailleurs. Vous voyez que j'y pensais pas. Ça nous ramène à Rameau. Saint-Saëns aimait Ferté beaucoup et Ferté avait un culte pour Saint-Saëns, pour Isler. Pour tous ces gens-là qui étaient des post-romantiques, des gens qui retournaient à Rameau. C'était, et alors, au Conservatoire de Paris, l'ornementation était très laissée au hasard. Avant le temps, vous dites que j'aime pas les baroques, attention, ils nous ont apporté ça. On doit au baroque de maintenant d'être intransigeant sur des choses que ces messieurs ont voulu. Couperin a dit, j'ai voulu ça, il faut faire s'il a voulu. Et ça, c'est les baroques, c'est la sonorité qui me gêne. Mais enfin, les théoriquement parlant, ils ont raison. Et alors, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que, après avoir entendu tous ces grands pianistes, j'avais aucune envie d'être pianiste. Je faisais beaucoup de piano pour moi. Puis alors, les Rampal, Jean-Pierre était voisin. Nous étions voisins, on était ensemble au lycée, sur la même petite table. Et on faisait de la musique sans arrêt. On a tout joué. Qui est pour flûte, pas pour flûte, d'ailleurs, il continue. Mais je pensais vraiment que la musique était un plaisir. Je rejoignais Debussy. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir un métier jusqu'au jour où j'ai entendu Lazare Lévy, qui jouait pas très fort, qui faisait pas un effet bœuf, jouer Idylle de Chabrier dans un concert où il n'y avait pas grand monde. J'ai vu ce petit monsieur arriver, il a joué du Mozart, il a joué admirablement une sonate de Beethoven. Pas très fort, c'est ce qu'on appelle la tempête, admirablement. Et il a joué Idylle, et là je suis devenu fou, comme Poulenc. C'est-à-dire que je me suis dit, je pourrais peut-être devenir quelqu'un qui sait jouer ça, qui peut jouer ça.
Pourquoi comme Poulenc?
Parce que Poulenc est devenu fou quand il a entendu Idylle.
En entendant Idylle.
Moi je suis devenu adulte.
Oui.
Je me suis dit, tiens, voilà une chose que je pourrais peut-être jouer, Ça faisait partie des inaccessibles. Cortot, Horowitz, Nat étaient inaccessibles.
Et là, vous aviez quel âge à ce moment-là?
Ah, 14 ans.
Mmh. Donc c'est là, une vieille histoire, Chabrier.
Et Chabrier, c'est un hasard, parce que...
Oui.
C'est un hasard. Mais c'était... J'ai compris cette musique, et j'ai surtout compris, digitalement, ce qu'on pouvait faire. Je ne dis pas que c'est facile... je me trompais parce que c'est très difficile.
Alors, ce programme, ce retour à Rameau, donc, sur lequel vous allez réfléchir pendant 2 heures, là, vous avez voulu commencer par la bonne chanson de Fauré, par une sainte en son auréole.
Oui, ça, c'est une question de larmes.
C'est pour pleurer.
Ouais.
Pour pleurer un coup,
c'est
là,
pour pleurer un
d'entrée.
Coup. Mais alors, est-ce que je peux me mettre au piano?
Absolument.
Il y a quelque chose d'étonnant dans cette bonne chanson. Et il n'y a pas longtemps que je m'en suis aperçu. C'est dans la balade aussi, d'ailleurs. « ce dessin-là. Il est toujours hanté forêt et on est tout près de... La Valkyrie, c'est le sommeil. Eh bien, c'est l'obsession wagnérienne. Et elle n'est pas que chez Fauré.
Une sainte en son auréole, une châtelaine en sa tour, tout ce que contient la parole humaine de grâce et d'amour. La note d'or que fait entendre le cor dans le lointain des bois, Marie à la fierté tendre des nobles dames d'autrefois. Avec cela le charme insigne d'un frais sourire triomphant éclos dans des candeurs de cygne. Des rougeurs de femmes enfants, des aspects nacrés, blancs et roses, un doux accord patricien. Je vois, j'entends toutes ces choses dans son nom.
C'était Charles Panzera qui chantait « Une sainte en son auréole » de la bonne chanson de Fauré et Verlaine avec au piano Madeleine Panzera-Bayot. Et je crois que Pierre Barbizet voulait vous remettre au piano une seconde.
Je suis en train de pleurer pour ça. Lydia, c'est le thème de Lydia. C'est, en fait, c'est Dorian. Mais c'est une mélodie de Fauré qui s'appelle Lydia, dans le premier recueil, qui hante aussi cette écriture. Et dans la bonne chanson, il y a sept thèmes. C'est fait comme... C'est des leitmotivs.
Mmh. Oui, mais alors, c'est pas le retour à Rameau, à ce moment-là.
Oui, mais l'économie des moyens.
Oui.
Voilà, le retour à Rameau. L'économie des moyens, vous avez vu, et le métier. Vous avez vu ce qu'on a parcouru dans cette mélodie de 2 minutes.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire il y avait la substance sentimentale d'un acte wagnérien, dont le respect à Wagner, dont l'apport de Wagner, mais le retour à une limitation aux strictes lois du métier, à une pudeur. Et puis, alors, ce raffinement extraordinaire d'écriture, et qui ne, au contraire, je crois, qui porte en lui l'émotion. C'est une qualité d'émotion. C'est pour moi. C'est aussi mon arrivée à Paris. Parce que j'avais lu Yankelevitch en 42. Fauré, ses mélodies, c'est une de ses premières choses. J'adorais déjà ça, mais alors, j'avais travaillé sur les sonates. Mais ça a été pour moi, c'est comme un peu comme Schubert. Il y a la grande musique de chambre de Fauré qui est une chose admirable, Dieu sait. Mais il n'est jamais aussi extraordinaire ou inégalable que dans le lead ou dans la mélodie, si vous voulez. Je pense la même chose de Schubert. C'est le voyage d'hiver... La Belle Meunière, c'est là où Schubert est divin. Il n'y a pas d'autre mot.
Et dites-moi, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris?
Je suis arrivé à Paris et au conservatoire, je vois une fille, une jeune fille, qui me dit, on est dans la même classe, au piano, enfin, etc. Je lui dis, comment vous appelez-vous? Parce qu'on disait vous à l'époque. Je m'appelle Célisette Pansera. Je lui dis, vous êtes la fille du génie, Pansera. Et alors, elle m'a emmené chez elle, avenue rue Monceau. Et j'ai connu son père et j'ai eu la joie de jouer avec lui. Enfin, ce début de Paris, donc occupé, le malheureux, c'était à la fois le désespoir et tant d'espoir de vivre heureux, un jour après l'autre, chaque jour comptant comme une victoire, enfin comme une chance plutôt, et toujours baigné dans cette musique. J'ai eu beaucoup de chance, Claude. Beaucoup de chance. Ça a continué après à Vienne, ça a continué.
Alors après, non mais revenons à
oui, bien sûr,
Yves Nat et à Marguerite Lanz. C'était quand ça alors?
Ben, c'était à ce moment-là. Mais alors j'étais dans la classe de Armand Ferté.
Oui.
Et là, je vous en ai parlé tout
à
l'heure.
Oui.
Je ne pensais pas du tout au retour à Rameau, mais c'était quand même ça.
Oui.
C'est-à-dire que, vous savez, à 65 ans, on finit par être enrichi, sans trop le savoir, d'un tas de choses qui sont comme ça, qui sont glanées. C'est ça l'enseignement et c'est ça l'apprentissage. J'en reviens un peu à Goethe, là.
Ces années d'apprentissage de
Pierre
Barbizet.
Eh oui. Restons à notre place.
Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne à Rameau, lui, Rameau, puisque dans le programme, finalement, de Rameau...
Oui, bien sûr.
Bon, c'est le retour à Rameau, mais... Donc...
Bon, puis il y a aussi la littération, c'était joli. Le retour à Rameau, comme une affante défunto.
Mais, par exemple, je crois que vous aviez une idée avec le tambourin.
Oui.
Oui. Alors, vous voulez peut-être nous jouer le tambourin et le comparer à une...
Musette.
À une musette.
De Bach.
De Bach.
Parce que le tambourin, c'est une musette. En ce moment-ci, je joue tout le temps des musettes. Il y a des musettes partout. Beethoven traite merveilleusement la musette, entre parenthèses. Alors, donc... si vous permettez, je peux vous jouer. Essayez de vous jouer, parce que je n'ai pas repassé. J'ai pensé à ça dans l'avion. Le tambourin de Rameau, qui permet de... L'accord de Rameau doit être pris dans sa fonction expressive. C'est-à-dire qu'il ne mène pas nécessairement quelque part. L'accord de Bach mène toujours quelque part. Si vous voulez, la musique allemande, c'est comme une autoroute, mais très beau. Hein. Imaginez une voie grande et idéale, droite. Et la musique française, ce sont des chemins, c'est des petits chemins avec des fleurs. Où on cueille des fleurs, où on s'attarde.
Qui serpente. Alors, on compare ce tambourin à la musette, alors, de la gavotte de la troisième suite anglaise de Bach.
Thank you.
comme vous dites, ce n'est pas le même monde.
Non. La stabilité tonale de l'un, la tendresse aussi. Le retour à Rameau, ça ne veut pas dire que moi, je préfère... Pas de jugement de valeur, vous comprenez. Mais ce sont deux choses. L'un va mener vers Debussy, Ravel. L'autre va mener à Wagner. Le grand contrepoint allemand de Bach à Wagner. La grande route. Et pourtant, vous voyez, chez Bach, là aussi, l'économie des moyens. Enfin, c'était une suite et je ne voulais pas vous faire perdre du temps avec mon piano.
Et alors, Pierre Barbizet, vous êtes allé à Vienne quand ?
Alors là, ça nous fait enchaîner sur Beaux-Arts. Et je suis allé à Vienne en 1946, juste après la guerre. Ben là, j'ai eu des aventures qui ne vont pas avec Rameau. J'ai eu la chance d'entendre l'opéra de Beaux-Arts, les Wagner. Je suis resté plus d'un mois nourri de cette air de Vienne, parce que Luft, le Gemütlich, enfin toute cette ambiance viennoise qui était famélique à l'époque, c'était à leur tour d'être mal nourris, les pauvres. Enfin, et moi j'étais fastueux, j'étais l'occupant. Alors j'ai vu Émile Oz, Kunz, tous ces gens-là, maigres comme des clous. Et il y avait Schwarzkopf qui faisait la première demoiselle de la Reine de la Nuit. Presque à ses débuts. Il y avait Krips, il y avait Prohaska, il y avait Moralt, des chefs qu'on connaît peu.
Oh, si, tout de même, si.
Oh, Moralt.
Oh, si, quand même.
Prohaska, beaucoup, oui.
Oui, oui, bien sûr, oui.
Figurez-vous que j'étais, le jour où on a donné Fidelio au théâtre Randem Wien, où Fidelio était là, j'étais à la place de Beethoven et Prohaska dirigeait. C'était fou. C'était fou. Des chances.
Et Rameau, est-ce que vous l'aimez ?
Je l'étudie. Son opéra, vous savez, Aix-en-Provence, on en donne. Il y a un chef-d'œuvre de Rameau, c'est Platé.
Oui.
Ça, c'est le départ de tout. Il y a tout dans Platé. Il y a déjà le roi malgré lui, il y a tout. Vous comprenez, c'est cette esthétique-là qui me tarabuste, pardon d'employer ce mot, qui m'inquiète.
Alors, dans la querelle des bouffons, vous auriez été du côté du roi.
Peut-être. La querelle des bouffons, quand vous allez à Naples, il y en a deux, des querelles de bouffons. C'est un compliqué, cette histoire de la querelle des bouffons, vu par les Napolitains. Ah, ça, c'est gratiné, alors. Parce que, enfin, nous, Pichil, tout ça, c'est dépassé. C'est la naissance de l'opéra comique. Pour les Napolitains, ce qui est important dans la querelle des bouffons, c'est la naissance de l'opéra comique venant de la Commedia dell'arte.
C'est quand même parti de Pergolèse, non ?
Ah oui, oui. Ah oui, ça va pas drôle.
Alors, il faut revenir...
Mais on est très loin de Rameau, alors.
Oui.
Oui, on est très loin de Rameau et on n'est pas loin. Regardez, Rameau meurt en 1764. On ne parle plus jamais de lui.
Oui.
C'est terminé. Il se passe tout à fait autre chose. L'italianisme gagne la France. Il gagne aussi l'Autriche. Et bon, bravo. Car j'ai la plus grande admiration pour les contrepoints italiens, pour les maîtres italiens qui sont finalement nos maîtres. Ce sont nos maîtres. Pas de question. Tous les Flamands ont fait le tour par l'Italie. Quand vous partez du grégorien jusqu'à Monteverde, ce sont nos maîtres. C'est Monteverde qui va tout inventer, tout refaire. Bon, ça, c'est 1600 et c'est Florence, c'est une autre histoire. Mais, pour en revenir à Rameau mort, plus personne n'en parle, plus personne n'en joue. Et alors, c'est en 1800, dans les années 1840, n'est-ce pas, c'était l'époque chopiniste, où les compositeurs commencent un peu plus tard aussi, 60, 70, 80, mais disons que la grande éclosion de ce style français, qu'on pourrait appeler le retour à Rameau, qu'on pourrait aussi appeler la musique du plaisir, la musique du bonheur, l'hédonisme, tout ce que vous voudrez. C'est dans les années 70 à 80. Or, c'est le moment, c'est les belles chanteurs, c'est la grande production vénérienne. Et tous ces gens-là courent à Bayreuth, à genoux, comme disait Lavignac. on devrait y aller à genoux, vous savez.
Oui.
Eh bien, tout ça, ça va à genoux. Souvent aux frais de mécènes, par exemple, Chavrier est allé aux frais de Chausson. Ernest Chausson était très riche.
Oui.
Il s'est lié avec Moltke, il s'est lié avec un tas de gens. Enfin, il était germaniste, disons, wagnérien, si, au sens de l'éclosion du romantisme allemand. Bon, il pleurait comme un veau, si vous pouvez lire ça dans sa correspondance. Ah, mon bon monsieur.
Oui, oui.
Ah ben, je pleurais comme un veau. Bon, il pleurait comme un veau en écoutant du Wagner, moi je pleure comme un veau en écoutant Forêt, et aussi quand j'écoute l'arrivée de dans la forêt, le passage du Do majeur au Bi majeur, de Sonate tierce, où il parle de sa mère, de son père, il ne connaît pas, alors le père c'est le Rhin, c'est tout à coup on comprend ça, là rien, arrive ce Mi majeur, n'est-ce pas, si, sur le Sido, si, sur le paladam, si, Mi sol fa, entre parenthèses, le Si, Mi sol fa, je l'ai entendu dans l'allée à Meudon où Wagner a vécu. Ça a été une émotion extraordinaire.
Et comment ça?
J'allais au château de Meudon, oui. Je me promenais, j'habitais là. Et enfin, il y a cette maison de Wagner qui est très à l'abandon, où il y a un
elle
plombier.
Existe encore?
Oh, oui, il y a encore la marquise, mais qui est dans un drôle d'état. Alors je regardais cette maison, je montais et j'entends bim, ta-da-da, si, mi sol fa, c'était un merle. Mais
ah oui.
Entendu là, ça fait un effet.
Ah oui, ça je comprends.
Alors pour revenir à tous ces gens-là et
mais
à
il
moi,
faudrait revenir à Vincent Dindy.
Il faut, mais, oui, mais Dindy est comme les autres, Saint-Saëns, Dindy, Chabrier, Emmanuel, Fauré bien sûr, sans oublier l'école d'Idermeyer, parce que c'est là que Saint-Saëns a fait travailler Fauré. Et Fauré c'est nourri de grégorien, c'est-à-dire retour à une mélodie extrêmement dont l'amplitude est très faible, alors que, et ça c'est important, dans le choral allemand, dont Bach est nourri, Luther, n'est-ce pas, le choral est constitué d'une façon harmonique extrêmement simple, mais extrêmement verticale, alors que tout l'apport français qui vient de ce plein chant à travers toute l'histoire du Moyen-Âge, est linéaire. Et chez Saint-Saëns comme chez Fauré, il y a un travail très approfondi sur le plein chant. On peut penser aussi que c'est très important de voir que la synthèse qui a pu être faite par ces musiciens de à la fois de leur engouement wagnérien et pour créer peut-être leur propre langage de pas peut-être prôner les trésors de leur propre musique, de leur musique du terroir.
Oui. La musique du terroir, avec Vincent Dindy, auquel je tiens à revenir, parce qu'on n'a pas le temps de trop...
Eh bien, Vincent Dindy, c'est...
La symphonie sur un chant montagnard, là, je crois que vous voulez entendre le final.
Oui, parce qu'il y a aussi, là... Il est bien évident que Wagner est derrière, et il est bien évident aussi que nous sommes en pleine Gaule. Eh oui, c'est un Gaulois qui écrit ça.
On va l'écouter, on va vérifier si c'est un Gaulois.
On peut penser que c'est un vieux con, mais il y a des gens qui pensent ça. Mais toute l'époque était...
Il n'a pas toujours eu des jugements qui nous conviennent à nous maintenant, en tout cas.
Ma mère était son élève, enfin, elle était élève de la Scola, et vous savez, Santa Cruz à Santiago, Villalobos, tout ça, ça vient de la Scola. C'est un homme qui a aussi appris à tous ces musiciens étrangers à harmoniser leur musique du sol.
Thank you.
Nous écoutions le final de la symphonie sur un chant montagnard pour piano et orchestre, opus 25 de Vincent d'Indy, par Robert Casadesus et l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Jean Normandie. Je regrette qu'on n'ait pas pu voir Pierre Barbizet danser la danse du ventre à un certain passage.
Très Rameau d'ailleurs.
Très Rameau d'ailleurs. Et vous m'expliquez qu'en somme, Rameau finalement, pour tous ces gens-là, était une sorte d'ange gardien.
Oui. Oh, c'est vous qui avez trouvé la formule. Ça y est,
j'ai compris
Claude m'avait sauvé.
J'ai compris ce que vous vouliez dire, oui.
Vous m'avez sauvé. Ils ont brandi Rameau. D'abord, les ouvrages didactiques qui ont été faits pour reparler de Rameau, on n'en parlait plus. Bon, c'est un travail qu'a fait Dindy. Réalisation d'œuvres de Rameau, réalisation de l'harmonie. Reconstitution, révision. C'est à cette époque que Durand engage Saint-Saëns pour la révision des œuvres de piano, de clavier. Bérédreit a été très, très méchant avec Saint-Saëns à cause de la Dauphine. Le père Saint-Saëns savait très bien où elle était. Et on lui reproche dans Bérédreit des ornements, de ne pas tenir compte de ci, etc. Et en fait, il en a absolument tenu compte. Moi, j'ai la preuve que c'était fait avec, pour l'époque, parce qu'on creuse toujours plus en histoire. Mais pour l'époque, c'était un travail considérable. Et c'est de là que tout est reparti. N'est-ce pas? Et c'est de là que finalement, les musiciens français, je parle que de ceux-là, se sont, comme vous dites, abrités sous ses ailes, sous son aile. C'est absolument évident. Et regardez le grand Robert, là-dedans, c'est un homme que j'adorais.
Le grand Robert,
je l'ai toujours appelé le grand Robert, je dis le grand Zino. C'était mes grands aînés, ces hommes-là ont été pour moi merveilleux. D'ailleurs,
Normandie n'est pas mal non plus.
Ah, extraordinaire. Spécialement dans un genre. Je l'aime moins dans Beethoven, vous voyez.
Mais là, par exemple,
il est extraordinaire. Mais il faut voir aussi
lui aussi, tout du Gaulois, là.
Oui. Hein? Oui, absolument. C'était vraiment. Cette musique qui. On est sur les cimes tout à l'heure. Nous avions froid. En haut, c'est Cévennes, c'était...
Ah oui, c'est merveilleux.
Ah, quelle musique, quelle inspiration.
Oui, absolument. Alors maintenant, la joyeuse marche Chabrier à l'orchestre. Hein,
oui. Là. Ah, ça, c'est Montmartre.
Oui, par l'Orchestre symphonique de Detroit, sous la direction de Paul Paré.
Ah oui, ça paraît, faisait Chabrier. C'est lui qui m'a rendu amoureux de Chabrier.
C'est vrai?
Paré, oui.
Dans quel...
Lévy m'a fait penser que c'était une chose... qu'il fallait aborder. Et Paré m'a fait rire, trépigner, jouir. Espagne, il faisait aussi, mais enfin, la joyeuse marche, et puis alors, au point de vue harmonisation, et tout à l'heure, Claude, quand vous disiez, on pense à Namouna de Lalo.
Oui, tout à l'heure, dans la symphonie, dans le final, oui.
Il y a un raffinement harmonique, des trouvailles de métier. Les trouvailles de métier finissent par faire naître l'émotion du sentiment. Alors que nous sommes dans le métier. Je me rappelle un mot de Tony Aubin, et un mot de Gide, qui disait, Gide disait, la musique française tend vers la litote. C'est pas mal pour c'est très bien. Et, Quand Tony Aubin était ému par quelque chose, ému, vraiment, ému aux larmes, il était très sensible, il adorait, fait la musique, il la connaissait, ça a été encore un grand maître pour moi, ça. Il disait, c'est réussi. Au lieu de dire, je suis dans un état effrayant, abominable, c'est réussi. Ça disait tout. Vous voyez toujours cette limitation.
Alors nous écoutons cette joyeuse marche.
Oui, vous allez voir ces harmonies. Thank you.
La joyeuse marche de Chabrier par l'Orchestre symphonique de Detroit sous la direction de Paul Paret. Pierre Barbizet, vous enseignez toujours?
Pourquoi vous me demandez ça?
Mais parce que j'ai envie d'aller à vos cours.
Enfin, c'est contemporain, ça. Écoutez, il y a des... Schoenberg disait, ne faites jamais ce que le copiste peut faire à votre place. Là, tout est dérobé dans ce morceau. C'est absolument... Tout est dérobé. Il avait aucune idée de l'école de Vienne. Mais vous avez vu, des trésors qui sont vite cachés, qui arrivent, hop, l'harmonisation toujours différente, avec un thème en do majeur, do, fa sol la sol do. Fa sol la sol do, fa sol la sol do. Mimi, ré, ré, là, là. Vous êtes dans la mineur, c'est pas vrai. Vous êtes là, c'est pas vrai. Vous n'êtes jamais dans le ton qu'il faut. C'est toujours dérobé. C'est comme une blague. Alors, c'est blagueur, c'est un mono, c'est rieur, c'est cochon, c'est tout ce que vous voulez, et c'est raffiné. On pense aux harmonisations que faisaient des gens comme Weber pour des valses de casino quand ils ont commencé.
Oui, oui, oui.
Enfin, c'est contemporain. Pour moi, c'était... Il y a même des choses qui pourraient être faites de Stravinsky. Qui pourraient être de Stravinsky.
Oui, oui, vous m'avez dit c'est Stravinsky au début, oui.
Là, vous avez les pieds. Vous êtes à la fois, vous comprenez. Vous êtes, c'est Gargantua aussi. C'est Rabelais.
Oui.
C'est Rabelais avec le jeu moderne. Mais la Suisse était moderne. Faut faire attention parce que il y a des, Machaut était moderne.
Oui, oui.
Faire attention quand on parle de moderne. Mais là, c'est contemporain.
Oui. Vous êtes très proche de lui, même comme personnalité, je trouve.
Mais c'est peut-être pour ça qu'on me dit que je joue Chabrier. Moi, je crois que c'est à cause de ma gueule.
Non, c'est pas ça du tout. C'est une certaine chaleur, une certaine... un côté extrêmement vrai.
J'avais deux grands-pères. L'un a toujours...
C'est original.
Oui. Attendez. Le père de ma mère apprenait son café au coin de la rue Bouffetard et de la rue Saint-Jacques avec Dindy, qu'il a toujours appelé mon colonel. L'autre disait rien. Bon, monsieur, colonel. Et là, c'est ma mère qui a prévu, elle a dit à son père, mais tu es fou. Mais c'est Vincent Dindy. Ah, je croyais qu'il était colonel.
Oui, c'est vrai qu'il avait...
Et puis alors, du côté du père de mon père, alors, de Paul Barbizet, qui était un joyeux de riz, qui était directeur de la situation... Oui, c'était un grand fonctionnaire. Alors, c'était des... Parce que Chabrier était un grand fonctionnaire. Il ne faut jamais oublier ça. Et moi, je suis très fonctionnaire. Je veux dire que j'aime l'administration. Non, mais Chabrier aussi...
Je souhaite qu'ils soient tous dans ce genre-là.
Non, mais j'aime l'administration parce que...
Ne remarque rien de semblable.
Non, mais à Marseille, ils rigolent quand je fais passer des notes très, très, très sérieuses et... sur les femmes de ménage, j'en ai écrit une avant-hier sur la femme de ménage de l'annexe du conservatoire qu'on vient de construire, qui a fait le tour de la mairie parce que tout le monde rigole en disant, écoutez la dernière note de Barbizet. C'est mon côté chabriériste. Mais Chabrier, mais l'administration, tous les Barbizet sont dans l'administration, enfin étaient. Et.
Vous épanouissez dans l'administration.
Et je m'épanouis dans l'administration. Mais c'est peut-être mon côté Chabrier. Oui, c'est vrai.
Mais il y en a plus d'un quand même aussi. Il y a aussi la sensibilité. Il y a quelque chose. Il y a du cœur.
Bon,
chez Chabrier, c'est un être merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup.
Oh,
la chaleur humaine de Chabrier, ça.
L'enfance,
les lettres à. Comment elle s'appelle, Nani?
Nani.
Oh, c'est une merveille.
Vous n'avez pas lu le livre de Francis Poulenc?
Non.
Oh,
bah, écoutez,
et puis, une lettre qui me revient. Souvent. Ah, les cerises d'Ambert. On pouvait s'asseoir dessus, ça ne bronchait pas. c'est extraordinaire.
Mais il a beaucoup écrit, à Vincent Dindy, en tout cas, aussi. Oui. Et il l'estimait beaucoup.
C'était le moins illettré des musiciens français. Vous savez ce qu'il disait de lui ? Je suis le moins... Il était très lettré,
oui.
Le docteur en droit. Mais il disait, je suis le moins illettré des musiciens français. Et c'est lui qui a fait le discours de Franck. Pour Franck, à la mort de Franck, c'est Chabrier qui est déjà devenu en 80. Nous vous appelons le père Franck, c'est là que ça commence. C'est merveilleux, le père Franck, avec une... Et ce qu'il a fait pour Sax, l'inventeur du saxophone.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Oh, mais il était fonctionnaire, il est allé voir le ministre, il a fait des pétitions, Et c'est très curieux, il n'y a pas de saxophone dans sa musique. c'est Chavrier. C'est Bizet qui va s'en servir le plus. C'est très drôle. Encore un Bizet.
Oui, on ne peut pas tout écouter. Et là maintenant, le retour à Rameau de Debussy.
Je vous interromps.
Bon.
La fin de Carmen. Oh, oui. Ma Carmen.
Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué.
La solfa mimi ré. Ma Carmen adorée. Okay. Si vous mettez un ré dièse après, c'est Tristan. Ré dièse mi fa la solfa mimi, c'est en si majeur. Mais fa, oui, c'est en si, la fin de Tristan, c'est si majeur. Mais si vous mettez ré dièse, ré mi fa la solfa mimi ré, j'ai découvert ça l'autre jour. C'est Tristan, là, ma Carmen adorée. Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué, ma Carmen adorée. C'est pas le temps, parce que c'est dans c'est pas dans si majeur, enfin. Là, c'est sur l'harmonisation. Bon, etc. Et là, c'est... Sur cette sixte. C'est incroyable. Ça, c'est une rencontre, hein. Je suis sûr qu'il n'y pensait pas, ça. C'est mon obsession. C'est le retour à Rameau.
Alors, pour Debussy, le retour à Rameau, alors c'est, lui, de toute façon, il ne s'est pas caché d'admirer Rameau et de s'y référer.
Oui, mais il faut voir l'harmonisation de l'hommage à Rameau. Hein. C'est paradoxal. C'est un chef-d'œuvre, c'est un morceau extraordinaire. Casa dessus jouait ça. Marguerite Long aussi.
Vous n'avez pas beaucoup parlé de Marguerite Long.
Ils étaient très différents. Oh ben, Marguerite Long, quelquefois, on donne des choses, des enregistrements, quelquefois à la radio. Et l'autre jour, j'ai entendu La Plus que Lente. Je pensais pas à Marguerite spécialement. C'était inimitable. Cette femme avait des choses. On a été méchants pour elle. Elle a été méchante, mais on a été très méchants. On lui a bien rendu. Non. Elle avait une qualité de son, le sixième nocturne, le premier quatuor de Fauré par cette femme, et le second. Elle avait des doigts de fée. Carabosse, quelquefois, avait de fée quand même. Ah, moi, j'ai pour elle. Vous savez que vous parlez de mon enseignement. C'est fou ce que je cite cette femme. 40 ans après. Elle avait des. Quand elle disait des nuances et pas de changement de mouvement. Et quand elle nous disait à tous, Poukhov, moi, Weyenberg, Badoura, Skoda, non, il n'était pas là, lui. Enfin, tout ce qui joue, tout ce qui est vieux aujourd'hui, mais enfin, qui a beaucoup joué. Quand elle nous disait, c'est mes enfants, je n'entends que des toccatas. Et comme c'était vrai. Et aujourd'hui aussi, j'entends beaucoup de toccatas. Je n'entends que des toccatas, c'est si beau ça. Je n'entends, parce que c'était bien joué. Pensez que quand on est à son cours, c'était public, on s'appliquait, enfin, c'était techniquement qu'il y avait des gens très épatants, enfin, ne serait-ce que Boukhov, Weyenberg, il y avait Aldo qui est venu, Sanson était le seul qui jouait autrement. Alors elle disait, ah mais il a ça, Sanson, c'est-à-dire cette façon de ce don du poignet, cette articulation qui n'était pas la nôtre, que j'essaye toujours de retrouver.
Ainsi s'achève la première partie de l'émission de Claude Maupomé, Comment l'entendez-vous, que le pianiste Pierre Barbizet avait enregistré en 1988. La réécoute et le podcast de cette archive sont disponibles sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet à la réalisation, Pascal Bodin à la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.